Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde. Ben non, c'est pas bonjour qu'il faut que je dise aujourd'hui, il faut que je dise koué. Et oui, ça va être la première fois dans toute ma carrière que je commence une émission en disant koué. Pourquoi? Ben parce que c'est la salutation qu'utilise régulièrement mon collègue Michel Jean, que vous connaissez bien sûr comme journaliste, comme reporter, mais aussi comme écrivain. Et il vient de remporter un grand prix, donc j'avais très envie de lui parler. Alors, quoi, Michel Jean, comment vas-tu?
Oui, ça va très bien, Sophie.
Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Je te taquine, mais sérieusement, est-ce que quand quelqu'un qui est un blanc dit quoi, est-ce que tu trouves ça condescendant ou tu trouves ça charmant?
Au contraire. Les Québécois, les Autochtones sont comme des Québécois. C'est-à-dire que quand les Québécois voient quelqu'un, un anglophone ou quelqu'un d'une autre culture qui fait un effort pour parler français, en général, on l'apprécie. Les Autochtones, c'est la même chose. Quand tu vois que les gens font un effort, ils l'apprécient. C'est vu de façon positive.
Toi, tu commences régulièrement ton bulletin, mais je pense à chaque fois tu commences ton bulletin de nouvelles. Tu disais bonjour, quoi ou quoi bonjour?
Rien, j'ai juste quoi tout le monde.
Quoi tout le monde?
Bienvenue au TV à midi. Et alors, tu sais, bienvenue, c'est une salutation en français aussi. Je pense que les gens comprennent que bon,
voilà.
C'est un bonjour qu'on dit en un mot en langue autochtone sur 24 heures de programmation.
Mais est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui t'écrivent parce qu'ils sont choqués ou la plupart des gens qui t'écrivent et qui mentionnent ça, ils trouvent ça positif?
L'immense majorité trouve ça positif, mais il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on dise ne serait-ce qu'un mot
incroyable.
En langue autochtone. J'essaie de leur expliquer que c'est pas Lino Aymoun qui menace le français. Là. Ça s'appelle l'anglais, la langue qui est un problème pour le français et j'en suis de ceux qui s'inquiètent de ça, mais c'est comme vous me respectez pas quand vous me parlez. Je vous respecte, mais est-ce qu'on peut juste dire un mot? Peux-tu être indulgent? Mais c'est une minorité quand même.
D'accord. Bon, alors donc, mais je voulais juste en parler parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion, je pense, d'en parler ensemble. Et je sais que moi, il y a des gens qui m'écrivaient des fois sur Facebook en disant « Madame Durocher, vous vous insurgez contre le bonjour, hi, mais votre collègue Michel, il dit quoi? » Puis bon, ben là, tu sais, à un moment donné, il faut faire de l'éducation. Alors donc, je préfère que ce soit toi qui la fasse, cette éducation et cette mise au point-là, plutôt que moi. Alors, comment on dirait félicitations en Innu pour te féliciter pour ce prix du meilleur roman des lecteurs et libraires Point 2023, mon cher ami.
Je sais pas si on le dira en Innu parce que je ne suis pas certain que le mot existe. Félicitations. Mais... donc, il faudrait trouver une formule qui explique le mot félicitations. Puis là, ça commence à sortir de mon Innu Aymoun qui est quand même à moi extrêmement rudimentaire. Je le parle à peine, mais je pense que les gens, par contre, dans les communautés, sont contents quand ils voient que le livre de quelqu'un qui vient de leur communauté est salué, ça fait toujours plaisir, je pense aussi.
Absolument. Alors, je vais le préciser parce que le titre est long. Hein? Donc, ton livre, Koukoum, a reçu le prix du meilleur roman des lecteurs et libraires Point 2023. La cérémonie de remise de prix va se tenir à Paris le lundi 12 juin. Est-ce que t'as un petit carnet, pas loin, un petit calepin dans lequel t'as noté tous les prix, toutes les distinctions, toutes les reconnaissances? Ris pas, Michel, c'est extrêmement impressionnant.
Non, non, je suis content. les prix principaux, tu sais, le premier, c'était France-Québec, qui était oui. vraiment un très beau prix. Et puis, Koukoum a gagné le prix, mettons... le prix Nature Nomade qui était remis au festival Nature Nomade à Nantes, a gagné le prix Vline par la communauté Bookstagram sur Instagram en France, c'est très populaire. Puis il a gagné aussi genre des prix qui sont littéraires qui sont donnés par des villes. Il en a gagné deux, une à Aubagne, je pense, puis l'autre j'oublie le nom de la ville aussi. Après le prix Étincelle. Alors, je pense qu'on est rendu à 6 prix en France. Et puis voilà. Mais au Québec, mais c'est ça. Okay. Puis en Allemagne, ben, il a été choisi sur la liste des meilleurs livres, des 10 meilleurs livres en langue allemande quand il est paru. Alors, c'était ça en Allemagne. Au Québec, toujours zéro. Mais au Québec, on a gagné des prix de lecteurs, par contre.
Ouais.
Dans le prix du livre le plus populaire dans les bibliothèques en Gatineau, celui du Club des Irrésistibles ici, et des clubs de lecture à Bibliothèque de Montréal, puis le combat des livres au Sarah du Canada.
Bon, alors c'est quand même pas rien. En même temps, on peut difficilement comparer la scène littéraire française et la scène littéraire québécoise parce que des prix littéraires en France, il y en a à tous les coins de rue. Tu tapes dans une poubelle, puis il y a un prix. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une société très littéraire. Les discussions autour de la littérature enflamment les esprits. On a juste à regarder à la télévision française le nombre d'émissions littéraires, à la radio, la même chose. T'arrives au Québec, je peux te nommer sur un doigt d'une main les émissions entièrement consacrées à la littérature au Québec.
Oui, mais par contre, les Québécois sont des grands lecteurs.
Oui.
Et contrairement à ce que les gens pensent, par exemple, les Québécois dépensent, je pense, c'est deux de mémoire, là, deux fois plus d'argent en achat de livres qu'en achat de billets de cinéma. Pourtant, dans les médias, on parle systématiquement des films, mais les gens n'achètent pas tant de billets de cinéma que ça. Quand, par exemple, il y a un film qui fait $1 million d'entrée, on en fait une nouvelle. Patrick Sénécal, il en a plus qu'un million à chacun de ses livres. Et puis, d'autres livres aussi, je veux dire, font plus que ça, mais il n'y a comme pas une tradition de parler ici de ces choses-là. Mais les Québécois lisent quand même beaucoup. Et ça, on a tendance à le sous-estimer.
Mais t'as tout à fait raison et je suis très contente que t'en parles parce que en effet il devrait y avoir beaucoup plus de place à la littérature sur nos ondes. Puis je dis la littérature, mais les livres en général. Et dans ce sens-là, d'après moi, les diffuseurs, autant radio que télé, sont pas nécessairement suffisamment au diapason des lecteurs québécois. Ça, c'est tout à fait vrai. Je veux que revienne évidemment sur le livre Koukoum, sur donc ton ancêtre Almanda, qui continue en fait à veiller sur toi. C'est quand même très particulier cette filiation-là. Elle t'a porté chance, Almanda.
Oui, puis je le crois, moi, quand je dis allemand d'aveille, c'est un peu comme une boutade, mais je le crois aussi que tu es sur mon épaule puis qu'il veille sur moi parce que il est arrivé toutes sortes de choses extraordinaires depuis que j'ai avec Koukoum. Et moi je crois à ça. Je pense que je suis pas particulièrement mystique, là, mais je pense que les aînés, les ancêtres, les gens qu'on a aimés, sont encore quelque part autour de nous et puis ils sont capables. Et quand je le dis avec le sourire, mais je le pense. Mon Almanda veille et moi, ça me réconforte.
Ouais. Alors, le prix va être remis le 12 juin à Paris. Est-ce que tu vas pouvoir y aller? La question sous-jacente à tout ça étant comment tu réussis maintenant à concilier ton travail de journaliste à Québécois et ta carrière littéraire?
Ça fait 4 ans que je n'ai pas pris de vacances. Alors, toutes mes vacances, je les prends. C'est ça, mais c'est vrai. Ça fait 4 ans que j'ai pas pris des vacances comme telles où je suis en vacances quelque part à rien faire. Mon temps de vacances que j'ai, je le consacre pour des voyages qui sont liés aux livres ou à travailler sur des livres quand c'est pas ça. Et donc, c'est, tu sais, comme par exemple, j'y vais le 12, je vais manquer 2 jours de travail le 12, puis je reviens le 13. C'est un lundi.
Aïe!
Je reviens le 13. Ouais, mais en fait, je pars le samedi, j'arrive le dimanche, je reviens le mardi. Mais je le fais, je le prends dans mes congés. Et mes patrons, ils sont vraiment générés là-dessus. Ils me laissent y aller. Je pense aussi qu'en même temps, je veux pas, ça sert aussi l'émission que j'anime, le TV à midi, parce que je veux pas, on en parle, puis il y a comme quelque chose de positif autour de ça et de valeur, là, je dis en statut de modestie. Alors, je pense que quelque part, il y a un gain, là aussi. C'est le fun, là, c'est quand même, c'est quelque chose de positif. Et je l'ai fait, mais moi, j'aime le journalisme, j'aime la littérature. Alors, tant que je peux, je vais continuer de faire les deux.
Mais en tout cas, c'est étourdissant parce que moi, t'es un collègue, je peux considérer j'ose dire qu'on a une certaine amitié l'un pour l'autre et je te suis sur Instagram, je te suis sur les. Et j'ai l'impression que t'es vraiment là, le globe trotter, t'es toujours des photos de toi en train d'écrire. T'es toujours dans un aéroport ou un autre, quand c'est pas la France, c'est l'Allemagne, quand c'est pas l'Allemagne, c'est le sud de la France. Enfin bref, t'es toujours parti et moi, je t'avoue que honnêtement, ça m'impressionne beaucoup. Mais ce qui m'impressionne le plus, Michel, et je te l'ai déjà dit, je te le redis, Koukoum, pour moi, il y a eu un avant et un après. C'est vraiment un livre, et je le dis en toute transparence, qui m'a réellement ouvert les yeux sur la dépossession de la culture autochtone, la dépossession du territoire, la dépossession à tous les niveaux. C'est un livre absolument magnifique, et cet honneur qui t'est choix ces jours-ci mérite d'être amplement souligné. Et je trouve très honnêtement que nul n'est prophète en son pays. On ne souligne pas à quel point la gloire qui te tombe dessus en ce moment, c'est de toute beauté.
C'est gentil, Sophie. Je l'apprécie d'autant plus que ce que tu dis, c'est la raison pour laquelle j'écris. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit Koukoum parce que les gens, je me rendais compte que les gens, ils sont pas méchants. Ils savaient juste pas comment ça s'était fait. Et des fois, les gens disaient, les Autochtones vivent dans les réserves, ça fait longtemps. Je dis non, moi, je suis né, ma grand-mère est née dans le bois, moi, je suis né dans l'hôpital d'Alma, donc c'est récent, où les Autochtones ont perdu la guerre, mais on n'a jamais été en guerre. Il y a de méconnaissance parce que ça a été évacué de l'histoire, de la culture, du cursus. Et les gens, quand ils le réalisent, je pense qu'ils sont capables de regarder les choses autrement. Donc, j'écris pour les Autochtones pour qu'ils voient leur histoire, parce que eux-mêmes, ils la savent pas parce qu'ils ont les mêmes cours que les autres. Et pour les Autochtones, parce que eux, ça donne. Tu sais, c'est l'autre côté de l'histoire, mais dans Machouillache, il y a 2 ans, ils ont trouvé des vestiges archéologiques. Puis ils ont regardé ça et ça a prouvé que il y a des gens qui vivent de façon permanente là, sur le site de Machouillache depuis 5000 ans. Ça fait 5000 ans. Mais il y a depuis 5000 ans que des gens vivent dans ce coin du Québec et on n'en sait rien, on ne s'est jamais intéressé à ça. C'est l'histoire du Québec aussi. Hein, tu sais, donc, puis moi, j'aime ça parce que, tu vois, en Europe, une des choses que j'apprécie, c'est qu'ils s'intéressent de plus en plus à ces questions-là. Puis c'est pas du tout à cause du folklore. Les gens me disent, Michel, les Français débarquent à Wendake, ils s'achètent des tomates. Ben non, ils me parlent des vraies questions, des enjeux. Et ils s'interrogent aussi sur comment ça se fait que c'est les pensionnats, etc. ils regardent aussi le Canada d'un point de vue différent. Mais OK, c'est pas tout rose. Tu sais, il y a des points d'ombre. Ben oui, il y a des points d'ombre comme dans toutes les
absolument.
Sociétés.
Absolument. Et je tiens à le dire, c'est que pour ceux qui n'auraient pas encore lu Koukoum, que oui, on apprend des choses et oui, on voit les choses différemment, mais ça n'est pas didactique et ça n'est pas moralisateur, bien au contraire. Michel, félicitations. Alors, je te donne comme devoir pour la prochaine fois qu'on se parle de me trouver comment on dit en Innu félicitations ou quelque chose qui s'en approche, en tout cas une notion qui s'en approche.
Ben, je vais le faire avec plaisir. Ça va être dans mon... j'essaie d'apprendre de nouveaux mots tout le temps, puis de façon chose. J'essaie de lutter contre mon complexe de l'imposteur et apprendre le mot félicitations.
Exactement. Et quelque chose me dit que bientôt, de toute façon, on va avoir l'occasion de te dire félicitations. Merci beaucoup, cher collègue.
Toujours avec grand plaisir, Sophie. Salut, hein?
Au revoir.
Merci. Bye.
Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
Bon, on était très attristés quand on a su qu'il n'y aurait plus de gala Québec Cinéma. Mais là, Radio-Canada nous avait promis quelque chose pour remplacer. Allez-vous trouver que c'est assez ou que c'est trop peu? On va parler de tout ça avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Sophie.
Oui, alors, toi, déçu ou... enfin, bon, d'abord, explique-nous.
En réalité, c'est un mince prix de consolation. Faut dire, ça va être une émission de 90 minutes. Consacré au cinéma québécois, des extraits de coulisses, des scènes tournées sur les plateaux de tournage, ça va être animé par Karine Vanas. Bon, donc c'est trop peu pour célébrer et souligner notre cinéma. Surtout quand même que on a quand même de beaux films, c'est une belle année, avec des films comme Fountain Lake, Viking, Arsenault et Fils, etc., etc. Donc, espérons que ce n'est que partie remise, parce qu'on sait que le gala des prix du cinéma a été annoncé par Radio-Canada l'automne dernier qu'il n'y avait plus de production. Et donc, c'est un peu une grande fête du cinéma qui est à la recherche de diffuseurs ou du moins d'un nouvel endroit pour célébrer notre cinéma. Et donc, espérons que ça va... Ça, c'est d'une tristesse. Je trouve qu'il y a de moins en moins de place pour la culture. Ça. Puis même, on écoute la radio, la télé, les bonnes vieilles émissions culturelles et tout. On ne demande pas de ramener les beaux dimanches. Mais il me semble que ben, déjà ramener les beaux dimanches, ça serait incroyablement une bonne idée. Mais sinon, d'avoir plus de fenêtres pour mettre à l'avant-plan le cinéma, la musique, la culture en général, les livres aussi, c'est complètement fou. J'ai l'impression des fois qu'il y en a que pour l'humour et pour... puis même pas pour la variété non plus. Il y a de moins en moins d'émissions de variété, donc c'est un peu alarmant.
C'est un peu alarmant. Ben écoute, tu dis on n'a pas besoin de revenir au beau dimanche nécessairement, mais écoute, j'ai animé pendant 5 ans les choix de Sophie à Télé-Québec. Je suis bien placée pour parler de la question des magazines culturels ou en tout cas de la place de la culture dans les médias. Bon, nous, notre émission ici même à Cube Radio est presque entièrement consacrée à la culture, mais des stations qui devraient, puisque ce sont des diffuseurs public, se consacrer à la culture, et j'ai nommé évidemment Télé-Québec et Radio-Canada, c'est la portion congrue, je veux dire, pendant longtemps, ça a été caché le dimanche après-midi, après, ça a été envoyé à Art TV, puis là, ben, tu sais, je veux dire, il n'y a même plus de magazine littéraire à Radio-Canada. Il n'y a même plus, c'est sur le web. C'est sur le web. Il n'y a même plus de magazine littéraire. On est une société, tu compares à d'autres sociétés, pour ne pas nommer la société française, mais pour nomme-moi plein de sociétés où la littérature est importante et tu vas écouter la radio publique ou la télévision publique et il va y avoir des émissions entièrement consacrées à la littérature. Au Québec, on n'en a pas. Ça dit quelque chose quand même sur notre rapport à la culture, là. Et je dis la même chose pour le cinéma.
Et c'est très triste. C'est alarmant. Moi, je me souviens, j'ai grandi en écoutant des émissions comme La Bande des Six, où il y avait, tu sais, il y avait de la place pour ça, puis c'était mes rendez-vous religieux, même à la radio. Il y avait des rendez-vous et tout. Et maintenant, ces rendez-vous-là sont de plus en plus rares. Et tu te dis, mais puis, si Radio-Canada... Télé-Québec ne font pas ce genre d'émissions-là, qui va les faire? La place devrait être assez... T'sais, honnêtement, j'écoute la radio depuis fort longtemps et mes rendez-vous habituels ont changé. Ça me tente pas, moi, d'écouter une émission avec des humoristes le dimanche soir ou le samedi après-midi. Je vise plus haut, j'aurais envie d'autres choses. Et bon, on parle de radio, mais même à la télé... Une bonne émission culturelle où on parlerait des films à l'affiche, des pièces de théâtre. Moi, je suis sur le fil tout le temps, je suis le temps sur les événements et tout. Et des journalistes culturels qui couvrent sont de plus en plus rares aussi. Sophie, tu es un des rares qui est sur à peu près tous les événements. Et c'est bien dommage. Je trouve qu'on accorde de moins en moins de place à ce qui devrait en avoir une grande, grande place.
T'as tout à fait raison, puis après, on va aller pleurer en disant, ben Netflix prend toute la place, puis les géants américains prennent toute la place, l'anglais prend toute la place, la culture américaine avec un petit C, un grand C, un moyen C prend toute la place. Ben oui, mais c'est parce que... on récolte ce que l'on sème également. Et dans le domaine du cinéma, moi, je vois fort bien une émission, que ce soit à la radio ou à la télé de Radio-Canada, où il y aurait... il faudrait aussi qu'il y ait des gens d'opinions différentes, hein, pas tout le temps des gens qui tapent sur le même coup constamment, là. Or, qu'est-ce qu'on a à la télévision publique? On a une émission de télé qui parle de télé. C'est juste de la télé. C'est juste de la TV, là, Art TV. Ben oui, mais c'est de la télé qui regarde la télé. Je veux dire, il y a d'autres formes de culture que ça. Et écoute, je m'excuse, mais c'est quelque part, c'est un petit peu la disparition de notre culture. Donc, alors, Radio-Canada nous promet cette émission-là. une heure et demie où on va pouvoir voir donc les coulisses, etc. Ce qui me rassure d'une certaine façon, c'est le fait que ce soit produit par France Baudouin, qui d'ailleurs produit justement, vu qu'on parle de livres et tout ça, qui produit l'émission Pour emporter, mais qui, selon moi, reste dans la... Tu sais, c'est pas de la grande profondeur littéraire, là. C'est des invités qui viennent parler de livres, mais des fois, c'est des livres de recettes. Puis en tout cas, bon, bref, ça vole pas toujours très haut, mais c'est aussi, bien sûr, celle qui produit En direct de l'univers. Donc, si c'est du calibre de En direct de l'univers, ça risque d'être bon quand même.
Oui, effectivement. Et souhaitons... Qui sait, pour toi, pas une émission, c'est juste du cinéma ou c'est juste de la musique et c'est juste du théâtre. Ouais. Lançons des concepts, Sophie, mais pour l'instant, on a une grande fête du cinéma qui se cherche un endroit, qui se cherche une tribune, qui se cherche... un gala, finalement, et espérons qu'on va trouver, parce que c'est un non-sens, Sophie, que cette grande fête du cinéma, bon, disons-le, c'était pas le rendez-vous de millions de spectateurs, mais quand même, c'était nécessaire, essentiel, que l'on parle et que l'on souligne notre cinéma. Et donc, on lance un appel à tous, s'il vous plaît, ramenez-nous une grande fête du cinéma, pas nécessairement sous la forme qu'on avait ou d'un gala, mais juste autre chose. C'est déjà bien une émission spéciale de 90 minutes à l'automne, mais c'est bien peu quand même parce que
Moi, c'est ça. Je ne demanderais pas qu'on ramène un gala parce que j'ai déjà écrit régulièrement là-dessus dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Les galas, je trouve que c'est une formule qui est extrêmement dépassée. Petit numéro musical, Mistingo, Mistinguette viennent présenter le prix X. Le gagnant est dans la salle. Il monte, il fait un discours où il remercie son gérant, son papa, sa maman, qui est peut-être au ciel. Petite larme, on passe à un petit intermède musical. Une autre nomination, tu sais, je veux dire, c'est plate, c'est prévisible, c'est inintéressant. Donc, renouvelons le genre, mais je pense qu'il y a de la place pour plus de culture. Et je trouve ça assez particulier quand même qu'on apprenne aujourd'hui ce par quoi Radio-Canada va remplacer le Gala Québec Cinéma, qu'on apprenne ça à peine 48 heures après la mort de Michel Côté, parce que regarde à quel point, quand on souligne le départ de Michel Côté, à quel point on parle de Crazy, à quel point on parle de Liste noire, à quel point on parle de Cruising Bar. C'est pas vrai que le cinéma n'est pas quelque chose qui vient chercher les Québécois aux tripes. Donc, on a besoin de quelque chose qui vient souligner la richesse de la culture au Québec et espérons voir, on va attendre voir ce que ça donne avec Karine Vanasse, qui avait déjà animé d'ailleurs un gala sur le cinéma. Ça s'était pas super bien passé.
Oui, effectivement. Mais du moins. Puis aussi, Sophie, c'est que si tu veux, il faut savoir quand nos films sont à l'affiche et tout. Et maintenant, il faut être quasiment un devin. Il y a des fois où tu vois, bon, moi j'ai les deux pieds dedans, fait, j'ai la chance de. Mais moi, il y a des gens qui disent, hey, quand est-ce que tu sors le film? Souvent, il est sorti, mais
ouais.
Il était deux semaines au cinéma Beaubien,
voilà,
au cinéma
Pain,
et voilà, il est disparu. Donc, il faut en parler, il faut le savoir que nos films sont à l'affiche. Et c'est pas avec ce qu'on a en ce moment pour parler de notre, avec les tribunes qu'on a pour parler de notre cinéma en ce moment qu'on va y arriver.
T'as tout à fait raison. Merci beaucoup, Patrick Delisle-Crevier. Merci, bye Patrick. Bye.
Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. La rencontre Nantel-Durocher.
Non, c'est pas une joke.
Sophie Durocher.
Duduche, elle va se défendre.
Guy Nantel.
Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
Un duo déstabilisant qui confronte les idées.
C'est à s'arracher les cheveux sur la tête.
La rencontre Nantel-Durocher.
Ça va être quelque chose. Bon, Guy, tu veux me parler d'un sujet qui polarise vraiment les gens, hein? L'augmentation du salaire des élus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Si t'étais devenu député, t'aurais pas voulu avoir 30 000 $ de plus?
Oui, on en a parlé, toi et moi, il y a quelques semaines. En fait, il y a 5 ou 6 semaines quand ils ont passé cette histoire-là. Puis, tu sais, on était d'accord les deux par rapport à cette question-là. Ouais. Mais au-delà d'être d'accord ou pas avec ça, moi, je trouve que ça fait un mois et demi que ça traîne parce que tout le monde se surenchère dans le populisme puis dans la démagogie dans ce dossier-là. Et ce matin, Yasmine Abdel-Fadel écrivait un excellent article justement sur le fait que les partis paralysent littéralement les travaux de la commission parlementaire parce qu'ils déposent des amendements qui sont ridicules. Parce que, tu sais, c'est le sujet parfait pour des politiciens, ça, pour dire au peuple, regardez, nous autres, contrairement à nos adversaires, on est vertueux, puis on lave plus blanc que blanc, puis on n'en veut pas cet argent sale-là. Évidemment, les champions, c'est Québec solidaire, qui au début voulait pas de l'argent. On se souvient que Gabriel Nadeau-Dubois a annoncé officiellement qu'il allait redonner 30 000 $ d'augmentation à des organismes communautaires. Il a quasiment passé un cheveu même de réclamer une diminution de salaire pour faire le parfait. Ensuite, les députés de QS, il a dit ils vont pouvoir l'accepter s'ils veulent l'augmentation. Après ça, ça a été OK pour l'augmentation, mais juste à partir de 2026. Après ça, OK, mais pas à 30 000, mais à 20 000. Tu sais, je veux dire, dans son papier, Yasmine met en lumière le fait que Gabriel Nadeau-Dubois déchire sa chemise publiquement quand il propose de faire 30 000 de plus.
Ouais.
Mais tu sais, il joue le sein quand il arrive cette histoire-là où tout le focus est sur lui et sur l'Assemblée nationale. Mais il n'a jamais déchiré sa chemise puis parlé d'ordonner une scène de plus quand il a réussi à se négocier 35 000 de plus par année. Quand il a été la reconnaissance officielle de son parti à la CAQ, puis que la CAQ a accordé, même s'il n'y avait pas les conditions nécessaires pour, ça lui a donné 35 000 $ de plus par année. Puis on n'a pas entendu parler de cette histoire de four que je redonne mon argent supplémentaire. Fait, c'est exactement ce que je déteste de la politique. Ça se retrouve exactement dans ce cas de figure-là en ce moment.
Oui, et c'est très, très, très facile de faire de la démagogie avec ce dossier-là pour une raison très simple, c'est qu'on est en pleine période d'inflation. Tu sais, tu t'en vas faire l'épicerie puis tu manques de t'évanouir parce que tu regardes le prix des aliments, ça n'a juste aucun sens. Alors, c'est très facile de dire, c'est épouvantable des gens qui vont se payer, surtout que c'est... Les députés qui votent pour se faire leur propre augmentation de salaire, c'est sûr que ça a l'air bizarre. C'est comme si moi, au lieu de négocier avec mon patron, je négociais avec moi-même puis que je m'auto-donnais une augmentation de salaire. Donc, c'est très facile de faire de la démagogie. Mais justement, il faut aller au-delà de ces notions aussi simples et simplistes. Et c'est quand même assez particulier qu'un parti qui passe son temps à accuser les autres de faire de la démagogie en fasse lui-même.
Ouais, puis le PQ est pas mieux dans cette histoire-là en passant, tu sais, parce que ils disent on va prendre l'argent, mais on va faire une comptabilité à part, puis là, cette 30 000 piastres-là, il va être compté à part, puis au bout de l'année, on va garder seulement la proportion équivalente à la moyenne des augmentations qui sont accordées aux enseignants, puis aux infirmières, puis aux fonctionnaires dans leurs prochaines négociations. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je veux dire, c'est tous des dossiers différents, voyons donc. Tu sais, en 2021, là, Sophie, les enseignants ont été augmentés de 15 % au Québec, OK? En moyenne, là, c'est à ça que ça ressemble. Mais si dans leur prochaine convention, là, les profs sont augmentés de 5 % mettons, là, ben c'est toujours bien 5 % qui se rajoutent aux 15 % précédents.
Ben voilà.
Tu as même une augmentation sur la première augmentation qui se donne un 21-22 %. En quoi les députés devraient conserver juste l'équivalent de 5 % alors que ça fait 23 ans qu'ils n'ont pas vu leur revenu reconsidéré? Ouais. En tout cas, moi, je pense qu'il est temps que ça se règle tout ça parce que cette campagne d'étalage de vertu-là, ça nuit aux affaires courantes. T'sais. Les commissions parlementaires, ça sert à faire passer des projets de loi qui en ce moment, qui ne peuvent pas passer parce qu'on passe des heures interminables à débattre d'un dossier qui, au final, va coûter quoi? 3-4 millions aux contribuables de plus, là. Et quand on construit des infrastructures qui dépassent des centaines de millions au-dessus des soumissions de départ, là, ben, je vois personne déchirer sa chemise de cette manière-là.
Oui, tout à fait. Mais tu sais, on refera pas la chronique qu'on a déjà faite ensemble, mais toi et moi, on pense la même chose. C'est que c'est un boulot que plus personne veut faire parce que c'est excessivement exigeant, que tu es soumis à l'opprobre populaire dans le sens que, bon, les médias sociaux maintenant sont complètement déchaîné. Je regardais même aujourd'hui, tu vois, bon, évidemment, c'est pas à Québec, c'est à Ottawa, mais il va y avoir une plus grande protection de la GRC pour certains ministres et certains hauts fonctionnaires à Ottawa parce qu'il y a une montée de la violence, il y a une montée des menaces envers les élus et envers les hauts fonctionnaires. Je veux dire, c'est ça être politicien en 2023. Alors, je veux dire, on peut-tu avoir un salaire simplement qui reflète ça, qui reflète les exigences que ça représente?
Ben, t'as tout à fait raison. Puis de toute façon, tu sais, je veux dire, tous les comparatifs, on les a faits. Si on les compare aux fédéraux ou aux municipaux, c'est les moins bien payés. Si on les compare, par exemple, tu sais, même les attachés politiques qui sont payés par l'Assemblée nationale sont souvent mieux payés que les députés pour lesquels ils travaillent. Je veux dire, si ta recherchiste est mieux payée que toi, Sophie, tu négocies mal ta convention collective. On salue Marianne, mais quand même. Non, mais tu sais, comprends-tu?
Mais je veux
dire, à un moment donné, les sous-ministres sont mieux payés que les ministres, là. Tu sais, les gens savent pas ça. Mais moi, j'ai des petites questions pour ceux qui font semblant, qui défendent les intérêts des citoyens. Quand on paye grassement un comité indépendant, là, parce que tu dis, ils votent. Oui, c'est vrai qu'au final, c'est eux autres qui votent, mais il y a un comité d'abord qui se penche sur ça. Là. Ça a été le cas avec Thériault Ouellet.
Tout à fait. Le comité, les deux membres du comité qui sont en effet penchés là-dessus. Là.
Quand on paye là, une fortune, ces gens-là, pour se pencher sur cette question-là, tu as vraiment l'intérêt des payeurs de taxes à cœur. Dites-les en avance pour pas qu'on dépense des fortunes pour rien.
Très bon point.
Si vous êtes capable de le dire dès le début, ben d'avoir accepté les décisions prises démocratiquement. Puis surtout, tu sais, arrêtez d'engorger le système parlementaire pour des niaiseries de 30 000 par année en 23 ans.
Ouais.
Puis l'autre question que j'ai à poser.
Oui, rapidement.
Si jamais tu refuses le 30 000 $ par année, là, OK, si tu refuses ça, là, est-ce que tu t'engages à le faire tout au long de ta carrière? Parce que si c'est pas pertinent, 30 000 de plus cette année, ça ne sera pas plus l'an prochain ni dans deux ans. Puis dernière question, si tu le donnes à des œuvres de charité, est-ce que tu vas passer ton reçu en déduction fiscale? Parce que ça aussi, ça coûte de l'argent aux contribuables.
Très
alors,
bon
j'espère
point.
Que tu vas jeter aussi aux poubelles puis à déchiqueteuse ton reçu de déduction fiscale pour ton don à l'œuvre de charité.
Excellent. Ce sont d'excellentes questions. Bravo, cher Guy Nantel, et à très bientôt.
Ça marche. Allez, au revoir.
Vous avez peut-être vu passer cette information-là lors de l'inauguration d'une exposition au Musée de la civilisation à Québec. Il y a un artiste qui, lors d'une performance d'art contemporain, s'est montré flambant nu devant un parterre d'adultes et d'enfants. Alors, on avait envie d'avoir la réaction de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Monsieur Duhaime, bonjour.
Bonjour.
Comment vous avez réagi quand vous avez vu passer cette vidéo? Parce que nos collègues de Rebelle News Québec sont allés à l'inauguration de l'exposition. Ils ont filmé la performance en question et ça a beaucoup circulé sur les médias sociaux.
Absolument, parce que c'est d'abord, il faut le dire, là, c'est une exposition qui a rapport avec la théorie des genres. L'exposition s'appelle « Unique en son genre ». C'est une exposition notamment de dildo, je ne sais pas comment le dire autrement, là, avec des seins en plastique, avec même des bloqueurs d'hormones. Là, c'est tout est sur la théorie des genres, la fluidité des genres, la déconstruction des genres. Donc, c'est une exposition qui est sur un sujet qui est très politique, si je pourrais dire, d'une certaine façon. Et Barbada, la drag queen qui a beaucoup fait jaser ces dernières semaines, ces derniers mois, était également présente pour l'inauguration de cette exposition-là. Et il y a effectivement, je ne sais pas si il faut dire un artiste, qui était un homme barbu qui était habillé avec du saran wrap, là, et qui l'ont dénudé. Puis ensuite de ça, ils ont mis une robe avec des talons hauts. Et c'est sûr que ça se fait devant des enfants. Puis c'est pour moi, ça confirme là, notre bataille qu'on mène depuis des mois à l'effet que c'est pas juste des drag queens dont il est question au Québec présentement. Là, ça, c'est le cheval de Troie, c'est le costume, là, c'est pas juste un costume dont on parle, c'est une théorie qui est derrière ça, c'est une idéologie, et on est en train tranquillement, puis là, c'est les musées qui sont militants là-dedans. On est en train de tenter d'influencer les enfants. C'est ça qui m'inquiète le plus. Bon, la nudité comme telle, moi, je suis pas quelqu'un qui est très pudique, là. C'est pas quelque chose qui me dérange au plus haut point, là. Dans l'art, il y en a de la nudité, là. C'est pas la première fois que dans un musée, mais est-ce que les avertissements étaient bien faits aux parents? C'est pas clair. J'ai lu votre chronique ce matin, puis c'est loin d'être clair. Deuxièmement, est-ce que c'était nécessaire? Qu'est-ce que ça apporte, là? Les enfants, ils ont déjà de la difficulté, même pour nous en tant qu'adultes. C'est compliqué, toutes ces affaires-là. Là. Hier, j'avais essayé de décrire, là, est-ce qu'une drag queen, là, quand Barbada commente ça puis qu'elle défend la nudité puis qu'elle trouve ça normal que les enfants voient ça, est-ce que je dois dire il ou elle quand je parle de ça? Parce que est-ce que c'est le gars qui se costume pour faire des shows de drag queen qui parle ou si c'est, ça fait partie de son personnage.
Ouais.
C'est, même
c'est
moi,
important.
Je savais même pas si j'allais
ouais.
l'appeler.
C'est important de mentionner que donc dans la fameuse vidéo de Rebel News Québec qui circule, vu que Barbada, la drag queen, était présente à l'événement, elle a été interviewée. Sauf que elle n'avait pas vu la performance du monsieur qui se met tout nu. Mais la question, en effet, se pose, est-ce que c'est Barbada qui est interviewée ou l'interprète de Barbada? Tu sais, c'est comme quand on interviewe Claude Meunier. Est-ce que c'est Papa qu'on interviewe ou c'est Claude Meunier? Il faut que les choses soient claires. Mais je veux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit, M. Duhaime. Vous dites c'est le cheval de Troie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'allégorie, c'est un subterfuge qu'on utilise parce qu'on veut envahir. Parce que c'est ça, le cheval de Troie. C'est un cheval qui cachait une armée pour envahir un pays. Est-ce que
c'est
vous
un
êtes...
cadeau.
Oui, oui, un cadeau. Un cadeau, d'où l'expression « un cadeau de grec ». Mais tout ça pour revenir, c'est pourquoi vous utilisez cette expression-là? Autrement dit, l'armée qui est prête à envahir, c'est qui, c'est quoi? C'est quoi la menace que vous, vous identifiez? Puis on va pouvoir en parler après.
C'est les woke qui sont l'armée qui est derrière ça. Là. Ils se servent du costume de drag queen. Parce que les drag queens, là, pourquoi ils veulent rentrer dans les écoles pour faire des contes pour enfants? C'est pas pour aller lire Le Petit Chaperon Rouge. Là. C'est pour amener des livres sur la théorie des genres, pour parler de ça. Et moi, mon problème que j'ai avec ça, s'il y avait des pédagogues, puis il y avait des pédiatres, puis des gens qui s'étaient penchés là-dessus, là, qui iraient parler de ça, ou même des psychologues qui iraient parler aux enfants, j'aurais pas de problème. Mais là, quelle formation a une drag queen pour aborder des questions aussi délicates? Puis c'est pas une question d'être contre les drag queens. Moi, j'adore les drag queens. Vous le savez, je suis gay. J'ai assisté à de nombreux spectacles de drag queens dans des bars en fin de soirée. J'aime ça, même si c'est un peu vulgaire, puis même si c'est inégal d'une drag queen à l'autre. Moi, c'est un genre d'art qui me divertit. Puis je suis tout à fait d'accord que les adultes aient accès aux drag queens. C'est pas une question d'être contre les drag queens. Mais les drag queens, premièrement, c'est pas un genre. Ça fait pas d'elles des spécialistes pour enseigner des théories qui sont soit controversées.
Mais c'est bien important pour les gens qui nous écoutent qu'on on explique les termes. Quand vous dites la théorie du genre, vous l'interprétez comment? Puis on va en parler après parce que votre définition de la théorie du genre est peut-être pas la même que la mienne et certainement pas la même que celle, par exemple, du musée ou des gens de Gris-Montréal, par exemple.
Non, mais par définition, normalement, on parle de la déconstruction des genres, là. C'est-à-dire que c'est le fait que c'est pas parce que biologiquement t'es né une femme ou un homme que t'es une femme ou un homme. Puis c'est sûr que ça se fait au nom de l'inclusion, hein, c'est toujours le mot qu'ils utilisent pour justifier là, qu'on expose les enfants à ce genre de questionnement-là. Et donc, c'est pour moi, c'est ça la théorie du genre. Là. C'est de vouloir déconstruire ce qui, pour nous, est des repères historiques.
Je comprends. Oui, alors donc ben, je vais aller dans le même sens que vous, c'est-à-dire que la théorie du genre, c'est des théoriciens donc qui remettent en question la binarité des genres, c'est-à-dire que nous, vous puis moi là, ben, vous êtes un homme, moi je suis une femme, donc tous les deux on reconnaît la binarité des genres. La théorie du genre, c'est de remettre ça en question en disant que le genre c'est quelque chose qui se construit socialement. Et ce qui m'a beaucoup surpris, Monsieur Duhaime, c'est que il y a un guide qu'on retrouve sur Internet, sur le site du Musée de la Civilisation, qui est le guide pour accompagner une exposition. De tout temps, dans tous les musées, il y a une exposition, ben, il y a un guide où on nous explique certains concepts qui sont développés dans l'exposition. Et là, dans le guide officiel de l'exposition du Musée de la Civilisation, on trouve les mots suivants. Deux points, ouvrez les guillemets. Personne ne choisit son sexe assigné à la naissance, que l'on soit une personne cisgenre ou transgenre. Lorsqu'une personne naît, le système social et médical la classifie dans une des deux catégories binaires, homme ou femme. Donc, le musée cautionne la théorie du genre.
Ben oui.
C'est là que je trouve qu'il y a un dialogue qui n'a pas lieu, parce que le musée devrait nous dire, ben, écoutez, il y a des gens qui pensent ça, et il y a des gens qui pensent autre chose. Est-ce qu'on peut, dans le cadre de notre exposition, confronter les deux théories? Mais le musée penche pour cette théorie-là. C'est là que ça devient problématique.
Puis, tu sais, mais en même temps, oui, il y a un aspect théorie, mais il y a un aspect aussi que c'est la réalité. Là. Je veux dire, il y a un aspect biologique. Et je comprends qu'il y a une minorité, très petite minorité, là, qui a un problème avec ça. Puis il faut accepter ça, puis il faut être ouvert d'esprit par rapport à ces gens-là. Mais cela étant, ça existe un homme à la naissance ou une femme à la naissance. C'est pas une création, contrairement à ce que vous venez de dire, là. C'est faux de dire que c'est une création sociale. C'est pas une création sociale, c'est une réalité biologique. C'est pas juste vrai pour l'être humain, c'est vrai pour tout.
Oui, mais on le voit même dans le vocabulaire qui est utilisé, parce que vous, moi et les médecins vont dire c'est le sexe est constaté à la naissance. On écarte les jambes puis on constate cet enfant-là est de tel ou tel sexe. Mais les gens qui véhiculent la théorie du genre vont utiliser un vocabulaire très particulier qu'on retrouve constamment, qui est la notion de sexe assigné à la naissance, comme si c'était le médecin ou les parents qui assignaient, qui imposaient un sexe à la naissance. Donc, le musée récupère ce vocabulaire-là, qui est un vocabulaire extrêmement idéologique.
Oui, puis c'est pire que ça. Je parlais à une médecin il y a quelques semaines qui m'expliquait que historiquement, là, quand la femme accouche, le père est là présent, puis là, c'est toujours, elle a caché le sexe, puis elle le montrait au père pour qu'il informe la mère, puis tout ça. Puis c'est un moment très, très unique, c'est un moment historique là, dans la vie d'un couple. Puis elle me disait qu'elle ne le fait plus, parce que c'est arrivé à quelques occasions qu'elle dit, au père, tu sais, si c'est un garçon ou une fille, puis elle se fait répondre, ben écoutez ça, l'enfant va décider plus tard. Mais on est rendu là. Il y a comme des gens qui ont assimilé ça. Et c'est profond. Là. C'est une vision importante. Là. Les gens ne réalisent pas que c'est pas juste une exposition, c'est pas juste un costume. On est vraiment dans un combat politique. C'est devenu, c'est quelque chose qui est en train de dominer. Puis à tous les jours, là, c'est pas. Là, aujourd'hui, on parle du cas du musée, là, mais regardez l'actualité. À tous les jours, il y a des chocs idéologiques qui sont en train de d'émerger. C'est nouveau dans le débat politique. On n'a jamais discuté puis débattu de ça au Québec. Là. Il n'y a jamais un politicien qui a commencé à débattre sa théorie des genres. Je pense, à ma connaissance, on est la première génération politique qui fait ça. Là. Mais j'ai l'impression que ça va occuper de plus en plus d'espace dans le prochain débat parce que c'est vraiment... Puis ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. C'est ce que je suis en train de dire. Là. Je ne suis pas minoritaire. Là. On est vraiment très, très majoritaire, vous et moi, à penser ça au Québec. Là. Mais les gens n'osent pas parler, puis ça explique pourquoi il y a eu une motion unanime à l'Assemblée nationale qui a été adoptée il y a quelques mois, où justement, ils précisent qu'il faut exposer, écoutez bien le mot, là, exposer les enfants à des drag queens pour faire du Québec un exemple en matière d'inclusion.
Okay, ouais.
Donc, il faut exposer.
Mais selon moi,
il y a
pas un politicien
qui veut refuser.
Mais selon moi, c'est deux dossiers différents. C'est-à-dire qu'il y a une chose de la présence des drag queens dans l'espace public et il y a les livres que les drag queens lisent ou le message qui est véhiculé par les drag queens. Selon moi, il faut différencier les deux, mais on a le droit quand même de se poser la question, comment se fait-il que au cours des derniers mois, tu peux pas ouvrir la télé sans qu'il y ait une drag queen dans une émission. Tu peux pas aller à un événement sans que l'événement... Je regarde, par exemple, récemment, c'était le gala de la Socan, donc dans le domaine de la musique. C'est une drag queen qui animait l'événement. Je veux dire, après, cet été, il va y avoir, évidemment, le défilé de la fierté, ça, c'est tout à fait normal. Après, il va y avoir un festival international de drag queen. On peut juste dire, c'est vrai qu'on constatait qu'il y a une omniprésence, en tout cas, des drag queens. Puis après, on a le droit d'aimer ça ou pas. Mais je pense qu'il faut plutôt se poser des questions sur c'est quoi le message qui est véhiculé par les drag queens.
Je ne veux pas vous accuser de naïveté, là, mais je veux juste que les gens comprennent d'où ça vient. La motion dont je parle à l'Assemblée nationale qui a été adoptée à l'unanimité, là, c'est Québec solidaire qui l'a présentée. Ce n'est pas innocent que ce soit Québec solidaire qui soit derrière cette initiative-là. Le discours politique, oui, les drag queens, c'est un autre sujet, mais ils se servent des drag queens pour promouvoir la théorie de genre. Les drag queens, c'est l'espèce de porte-voix qu'ils ont trouvé pour faire entrer ça auprès des enfants. Vous savez, il y a toujours eu des drag queens au Québec, puis jamais il nous est passé par la tête de les envoyer dans l'école, encore moins d'aller leur lire des livres sur la théorie du genre. Donc, ce qui se passe présentement, là, c'est pas un accident que c'est les drag queens qui portent ce flambeau-là, parce que justement, ils veulent peinturer tout le monde qui va sortir contre la théorie du genre pour dire, voyez-vous, c'est des homophobes, c'est des anti-drag queens, c'est des transphobes. C'est pour ça que moi, j'allais dire, je suis presque chanceux, là, mais le fait que je sois gay, je suis capable de politiquement sortir puis d'attaquer cette théorie-là.
Voilà, c'est que vous pouvez dire.
D'homophobe.
Voilà. En tout cas, mais bon, vous accusez.
Michel Blanc, qui était une transgenre, de venir avec moi quand j'ai fait ma première sortie pour m'appuyer là-dessus. Elle est même pas conservatrice, une ancienne candidate péquiste. Fait que là, ils pouvaient pas nous accuser de transphobe. Je suis avec la transgenre la plus connue au Québec. Je suis le politicien gay le plus connu au Québec. Fait que c'est, on est dans, parce que les gens se taisent, Madame Durocher. C'est ça qui est le drame. C'est que les gens qui nous écoutent, il y a une majorité qui est d'accord, mais ils se ferment la gueule parce qu'ils veulent pas être annulés. Parce que les woke, c'est aussi la culture de l'annulation. Puis quand tu penses pas comme eux, ben, on va t'attaquer personnellement plutôt qu'attaquer tes idées. C'est ça aussi.
J'en sais quelque chose quand j'ai écrit une chronique l'année dernière, l'été dernier sur les drag queens. Il y a même un humoriste très connu qui a suggéré aux gens qui n'étaient pas d'accord avec ma chronique de venir manifester devant chez moi où habitent quand même mon fils de 15 ans et mon mari. Wow. Alors, merci beaucoup, Éric Duhaime. Vous êtes chef du Parti conservateur du Québec et vous réagissiez donc à cette exhibition de pénis en plein milieu d'un musée de la civilisation au Québec.
C'est moi qui vous remercie, Mme Durocher. Au revoir.
Cube Radio.